Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Daniel Hillion, je travaille pour l'association Le SEL, le service d'entraide et de liaison. Ça fait 17 ans maintenant que je travaille dans cette association. Et l'une de mes tâches au sein du SEL consiste à visiter les églises en France pour voir avec les chrétiens ce que la Bible a à nous dire sur le sujet de notre responsabilité face à ceux qui vivent dans la pauvreté et pour présenter les différentes actions soutenues par le SEL. Et c'est ce que je vais faire avec vous ce matin. Et donc, dans un premier temps, je vous propose d'écouter la parole de Dieu dans le livre des Proverbes. Pour la prédication d'aujourd'hui, j'ai choisi un verset dont le choix vous surprendra peut-être, parce que, comme vous allez le voir, il s'agit d'un texte un peu abrupt, mais je pense qu'en creusant un peu, nous pourrons non seulement en apprendre quelque chose, mais aussi en ressortir encouragé. Et donc, je vous invite à écouter la lecture du livre des Proverbes au chapitre 18, le verset 23. Proverbes, chapitre 18, verset 23. Le pauvre parle en suppliant et le riche répond avec dureté. Le pauvre parle en suppliant et le riche répond avec dureté. Le livre des Proverbes, dont je viens de vous lire un verset, a été écrit pour communiquer à ses lecteurs l'art de vivre selon Dieu. Il nous parle de situations ordinaires, banales, quotidiennes, pas très glorieuses dans certains cas. Parfois, il nous montre comment ceux qui connaissent Dieu et comment ceux qui ne craignent pas Dieu se conduisent dans de telles situations ordinaires, banales, quotidiennes. Et puis d'autres fois, il se contente de décrire le monde tel qu'il est et il nous laisse le soin de tirer nos propres conclusions. Et c'est le cas de notre verset. Le pauvre parle en suppliant et le riche répond avec dureté. Nous allons, pour ainsi dire, tourner un peu autour de ce verset en essayant de le considérer depuis diverses perspectives. Et d'abord, je voudrais que nous prenions simplement ce texte comme la description d'une situation qui se produit effectivement assez souvent dans notre monde. Le pauvre parle en suppliant et le riche répond avec dureté. La scène est assez facile à imaginer. L'une des caractéristiques majeures de la pauvreté consiste à souffrir de manque. Dans mon dictionnaire, c'est la question de l'argent qui vient au premier plan, puisque mon dictionnaire indique « état d'une personne qui manque de moyens matériels, d'argent, insuffisance de ressources ». Dans la Bible, il me semble que ce sont plutôt les deux thèmes de la nourriture et du vêtement qui sont mis en avant pour résumer les domaines dans lesquels le pauvre souffre de manque. Mais dans bien des cas, ça va ensemble, parce que très souvent, c'est l'argent qui permet d'obtenir la nourriture, le vêtement et les autres biens de première nécessité comme la boisson ou le logement. Quand les manques dont souffre le pauvre se font trop criants, ils créent un sentiment d'impuissance. Ce dont le pauvre a besoin est hors de sa portée immédiate. Il ne peut pas l'obtenir en faisant simplement un petit peu plus d'efforts et en se débrouillant par lui-même. Et c'est ça qui le pousse à supplier celui qui peut lui venir en aide. Il s'agit là d'une situation humiliante et effrayante. Parce que celui qui supplie dépend du bon vouloir de son interlocuteur. Si le pauvre de notre verset parle en suppliant, le riche lui répond avec dureté. Pourquoi le fait-il? Pourquoi ne manifeste-t-il pas cette empathie dont les humains, croyants ou pas, sont bien souvent capables? On peut faire quelques hypothèses. Le texte parle du riche. Il arrive paradoxalement que plus on possède et moins on soit disposé à se montrer généreux. Ce n'est pas une règle générale, mais c'est une tentation qui guette celui qui a beaucoup d'argent ou de biens, parce que l'argent donne l'illusion de l'indépendance. Quand on se sent interdépendant avec les autres, on soigne un peu les relations. La société humaine est largement bâtie sur le principe du donnant-donnant. Mais face à un pauvre qui supplie, on ne se sent pas toujours obligé de faire autant d'efforts, surtout quand on est riche. Plus encore, le riche sait très bien que le pauvre est quelqu'un qui est susceptible de le solliciter de manière répétée. Si je lui donne aujourd'hui, il reviendra me demander demain. On peut aussi imaginer que si le riche de notre verset est un créancier, c'est-à-dire quelqu'un qui a prêté de l'argent au pauvre, il peut être fatigué de devoir accorder continuellement un nouveau délai à celui qui lui doit de l'argent. Élargissons un peu les perspectives. Avec le temps, la sensibilité s'émousse. À force d'être sollicité, on peut s'endurcir. C'est compréhensible d'ailleurs. On ne peut pas vivre en étant continuellement dans l'émotion suscitée par la misère d'autrui. Nous serions littéralement détruits si nous essayions de mettre toute la misère du monde sur nos épaules. Et la Bible ne nous demande pas de le faire. Et là, il y a un équilibre assez difficile à trouver. Et si nous n'y prenons pas garde, nous serons rapidement soit écrasés, soit amenés à faire preuve de dureté envers ceux qui souffrent. Et puis parfois, enfin, on a le sentiment que répondre favorablement aux pauvres ne sert à rien. On est déçu dans ses attentes à l'égard de ceux qu'on voulait aider. On imaginait qu'ils allaient s'en sortir ou faire un meilleur usage de l'aide qu'on leur avait apportée la dernière fois. Et on finit par se fermer. Donc, voilà un petit peu ce que je propose de dire par rapport à la description de la situation dont nous parle notre verset. Et je voudrais maintenant poser la question, et si je faisais partie de ce tableau, je serais qui ? Je ferais quoi ? Dans le monde réel, nous rencontrons fréquemment le cas du pauvre qui parle en suppliant et du riche qui répond avec dureté. Mais ce texte se contente-t-il de constater la rudesse du monde ou veut-il nous donner un enseignement ? Essayons de nous demander où nous nous situerions si nous faisions partie du tableau qu'il dépeint. Bon, alors, sans doute, il nous est difficile de nous identifier aux riches. D'abord parce que c'est clair qu'il n'a pas vraiment le beau rôle. Ensuite, parce que la plupart d'entre nous, je pense, ne se considéreraient pas comme riches. Et je suppose qu'effectivement, la plupart d'entre nous ne sont vraiment pas riches. Donc, nous ne sommes pas directement identifiables aux riches de ce verset. On reviendra un peu plus tard pour savoir si on ne peut pas être un peu moins directement identifiable quand même. Certains d'entre nous s'identifient peut-être aux pauvres. C'est le cas de ceux qui ont connu ou de ceux qui connaissent encore la pauvreté et l'injustice. En fait, il suffit d'avoir connu une seule fois dans sa vie le genre de situation humiliante dont parle notre verset pour s'en souvenir pour toujours. Et puis, il y a encore une autre possibilité. Plutôt que de nous identifier à l'un des deux personnages, nous sommes les spectateurs de leur échange et il faut que nous choisissions une réaction. Le pauvre parle en suppliant et le riche répond avec dureté. Nous le voyons, nous le savons et nous faisons quoi ? Alors là, il y a encore plusieurs choix possibles. Peut-être que nous allons choisir de ratifier le monde tel qu'il est. Baisser la tête, être un peu gêné, passer le plus vite possible à autre chose. Peut-être qu'en lisant ce texte, nous nous disons avec un certain fatalisme, « Ben oui, c'est vrai, c'est comme ça, le monde est dur. » Et en fait, dans la Bible, l'Ecclésiaste n'est pas très loin de cette pensée quand il affirme « Si tu vois dans une province qu'on opprime le pauvre et qu'on viole le droit et la justice, ne t'étonne pas de la chose, car un grand protège un autre grand, et il en est encore de plus grand au-dessus d'eux. » Ecclésiaste chapitre 5, verset 7. Peut-être que devant la scène décrite par notre verset, nous sommes indignés. Nous avons envie de crier que c'est injuste. Nous avons envie de mobiliser tout le monde autour de nous. Nous avons envie de secourir le pauvre et peut-être de casser la figure aux riches. Nous voudrions intervenir, dénoncer le mal. Nous voudrions pouvoir nous exclamer comme Job. En effet, je délivrais le malheureux qui implorait de l'aide et l'orphelin que personne ne secourait. La bénédiction de celui qui allait périr venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice, elle me revêtait. J'avais mon droit pour manteau et pour turban. J'étais des yeux pour l'aveugle et des pieds pour le boiteux. J'étais un père pour les pauvres. J'examinais la cause de l'inconnu, je brisais la mâchoire de l'injuste et j'arrachais la proie de ses dents. Job chapitre 29, versets 12 à 17. Et puis enfin, peut-être qu'en lisant ce texte, nous nous sentons poussés à nous joindre à la prière de ceux qui demandent à Dieu de ne pas oublier l'humiliation des malheureux. Peut-être qu'en lisant que le pauvre parle en suppliant et que le riche répond avec dureté, nous demandons « Jusque à quand, Seigneur, en sera-t-il ainsi ? Jusque à quand ?» Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut choisir une des possibilités que j'ai énumérées ? Est-ce qu'il faut en inventer encore une autre ? Est-ce qu'il faut les combiner entre elles ? Pour nous aider à aller de l'avant, je voudrais vous proposer deux pensées pour aller plus loin à partir de notre verset. Et d'abord dire que face à la scène décrite dans notre verset, et de manière générale face aux situations de pauvreté, je voudrais d'abord nous encourager à apprendre à regarder au-delà des apparences. Apprenons à regarder au-delà des apparences. Le pauvre parle en suppliant et le riche répond avec dureté. Oui, c'est vrai, mais attention à ne pas s'arrêter à cela. Il faut avoir pitié du pauvre, mais il ne faut jamais réduire le pauvre à n'être qu'un objet de pitié. La Bible nous apprend que chaque être humain a été créé en image de Dieu. Ça lui donne une dignité inaliénable. Il a aussi des atouts et des potentialités. Le pauvre n'est pas bon uniquement à supplier et à recevoir. L'argent ne peut pas tout acheter. Et le riche aurait souvent à gagner à se mettre à l'écoute des plus pauvres. Apprendre à regarder au-delà des apparences, c'est aussi apprendre à voir Dieu dans les situations de la vie quotidienne. Dieu n'est pas mentionné explicitement dans notre verset. Et savoir voir au-delà des apparences, c'est aussi discerner la réalité de Dieu, même lorsqu'il semble silencieux devant l'oppression humaine. Le livre des Proverbes affirme de façon impressionnante que Dieu s'identifie, pour ainsi dire, au pauvre. Qui se moque du pauvre déshonore celui qui l'a fait. Qui se réjouit d'un malheur ne sera pas tenu pour innocent. Proverbes chapitre 17, verset 5. Attention, il ne sera pas toujours possible de répondre avec dureté aux pauvres. Un jour viendra où Dieu demandera des comptes. Le riche répond avec dureté. Alors, j'ai dit que nous ne pouvions sans doute pas nous identifier directement au riche et que son comportement suscite peut-être en nous de l'indignation. Mais attention, savoir regarder au-delà des apparences, c'est peut-être aussi apprendre à reconnaître que tous, il nous arrive d'être en situation de force par rapport à quelqu'un d'autre. Et ça, ça commence dès la cour de récréation. Qu'est-ce que nous faisons à ce moment-là ? C'est bien d'être zélé pour la justice, mais parfois ça pourrait se retourner contre nous. Est-ce que vous vous souvenez de ce texte où le prophète Nathan va raconter à David l'histoire d'un riche qui prend à un pauvre son unique brebis, et David s'indigne noblement. Mais le riche en question, c'est lui. Il nous arrive parfois d'être plus proche de ceux que nous dénonçons que ce que nous voudrions. Et même lorsque nous n'allons pas jusqu'à opprimer notre prochain par nos actes, ne nous arrive-t-il pas parfois bien rapidement d'avoir à son égard un regard dur, méprisant ou accusateur ? Ne nous arrive-t-il pas presque inconsciemment de ressentir un sentiment de supériorité à l'égard de ceux qui ont moins que nous ? Donc face à la scène décrite dans notre verset et de façon générale face aux situations de pauvreté, je voudrais vraiment nous encourager à apprendre à regarder au-delà des apparences. Et puis, face à la scène décrite dans notre verset et de façon générale face aux situations de pauvreté et d'injustice, je voudrais nous encourager à agir à la lumière de l'accueil que Jésus nous a réservé. Devant Dieu, nous sommes tous pauvres. et il convient que nous adoptions une attitude de supplication. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a donné un Sauveur qui est doux et humble de cœur. Si je sers mammon, l'argent, il est à craindre que je devienne dur, comme le riche de notre verset. Mais si je reconnais que Jésus est Seigneur, je dois laisser tomber l'orgueil, les sentiments de supériorité et les abus de pouvoir. L'accueil de Jésus, c'est quelque chose qui change aussi la donne pour le pauvre. Alors, soyons clairs, on ne peut pas promettre à quelqu'un que s'il devient chrétien, c'est sûr qu'il va sortir de la pauvreté ou qu'il ne se retrouvera plus jamais dans une position humiliante devant un riche. On peut encore moins lui promettre de manière systématique la prospérité financière. Mais celui qui choisit de supplier le Christ n'est plus vraiment à la merci des hommes. L'apôtre Paul a écrit « L'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur ». 1 Corinthiens chapitre 7, verset 22. En Christ, le chrétien peut toujours avoir la tête haute, même s'il lui arrive d'être obligé de parler en suppliant devant les hommes. En Christ, le chrétien le plus humble reçoit par le Saint-Esprit les ressources nécessaires pour faire authentiquement le bien et bien le faire, un bien qui portera du fruit jusque dans l'éternité. Les paroles jouent un rôle clé dans la vie humaine. Quand le riche répond avec dureté, il peut pousser le pauvre au désespoir. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'inverse est vrai. La bonne nouvelle, c'est qu'avec nos paroles, nous pouvons aussi relever le pauvre, le fortifier, le reconnaître dans sa dignité. Et j'aimerais en conclusion proposer quelques pistes pratiques en lien avec notre verset. La première, toute simple, ce sera de renoncer à parler avec dureté aux pauvres et de leur parler d'une manière qui leur communique une bénédiction. Nous ne pouvons pas répondre à toutes les sollicitations que nous recevons, mais nous pouvons nous abstenir des paroles dures. Et nous pouvons faire en sorte que quand nous devons parler, nos paroles soient des paroles qui reflètent le fait que nous avons un maître qui est doux et humble de cœur. Ça peut commencer par un simple bonjour. Ça peut se continuer en nouant des relations avec des personnes qui vivent dans la pauvreté. Dans le cadre du parrainage, le sel encourage la correspondance avec les enfants parrainés, précisément pour permettre de leur communiquer un message d'espérance. Une jeune fille philippine qui a été parrainée dans son enfance témoignait ainsi concernant ses parrains, je cite, « Ils m'écrivaient toujours qu'ils étaient fiers de moi. Mes parents ne me disaient jamais ce genre de choses. » Vous voyez comment les paroles peuvent changer quelque chose dans la vie de quelqu'un. En faisant cela, ses parrains ont semé une graine qui a porté du fruit et qui a encouragé cette femme à faire le bien et à bien le faire aujourd'hui. Et si nous ne pouvons pas répondre à toutes les sollicitations, nous pouvons sans doute répondre à certaines d'entre elles. Apprenons à faire une place aux personnes en situation de pauvreté dans notre vie et apprenons à le faire concrètement en leur faisant une place dans notre budget. Deuxième piste, sachons aussi parler de ceux qui vivent dans la pauvreté à notre Dieu. Sachons supplier notre Dieu en faveur du pauvre qui en est réduit à parler en suppliant. Incluons les pauvres dans notre vie de prière personnelle et communautaire. Et puis enfin, quand l'occasion se présente et que notre vocation nous y conduit, eh bien sachons aussi parler aux riches et à celui qui est en position de force. Souvenons-nous du prophète Daniel qui a su faire preuve d'une prudente audace auprès du roi païen Nebuchadnezzar et lui rappeler ses responsabilités. Je cite « C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés par la justice et à tes fautes par la compassion envers les malheureux, et ta tranquillité se prolongera. » Daniel chapitre 4, verset 24. Il existe des possibilités d'engagement citoyen qui nous permettent de faire entendre respectueusement à ceux dont les décisions ont des conséquences sur la vie des pauvres que la pauvreté est un sujet qui nous tient à cœur et qui tient aussi à cœur à notre Dieu. Quand ceux qui nous gouvernent prennent les bonnes décisions, cela peut libérer les potentialités de ceux qui vivent dans la pauvreté et promouvoir un développement authentique. Le pauvre parle en suppliant et le riche répond avec dureté. Que notre Dieu nous conduise à ne pas nous conformer à ce monde présent dans lequel cette situation se présente trop souvent et à imiter notre maître doux et humble de cœur venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Je vous invite à prier. Notre Dieu et notre Père, devant toi nous voulons venir en suppliant parce que nous savons que nous n'avons rien à t'apporter, que nous puissions te présenter en échange de ta grâce, ou que la seule chose que nous avons à t'apporter, c'est Jésus, sa promesse, son œuvre, sa vie, sa mort sur la croix, sa résurrection, et que nous voulons te demander de regarder à Jésus et de mettre à notre compte ce que lui a fait, parce que ce que nous avons fait ne peut rien nous valoir d'autre que la condamnation. Notre Dieu et notre Père, nous te remercions de nous avoir donné un Sauveur doux et humble de cœur. Et nous te prions pour te demander la grâce que ce soit quelque chose qui se reflète dans notre vie quotidienne, dans nos interactions les plus simples de la vie de tous les jours. Et qu'il y ait des personnes qui vivent dans la pauvreté qui puissent aussi en profiter. Amen.